le murmure de l'écran qui se relève étant discret, je peux commencer dès maintenant. Comme vous le savez, le professeur Takeshi Matsumura nous fait l'honneur de venir au Collège de France donner 4 conférences à l'occasion de la sortie de ce chef-d'œuvre, le mot n'est pas trop fort, hein, qu'est son dictionnaire du français médiéval. Vous me direz que je ne devrais pas dire chef-d'œuvre parce qu'il est sur la couverture et noté sous la direction de Michel Zinc. Mais cette mention ne figure que grâce à l'exquise courtoisie toute japonaise du professeur Matsumura, parce que comme je n'ai rien fait sur ce dictionnaire, je peux en dire du bien sans aucun risque de vanité. Donc la dernière fois, enfin je ne recommence pas à chaque fois, j'ai rappelé dans quelles conditions j'ai demandé à M. Matsumura de faire ce dictionnaire, tâche infaisable, surtout dans les délais que je lui demandais de tenir, et qu'il a tenu, c'est ça le plus extraordinaire. Hein. Et lorsque vous voyez donc cet ouvrage de 3500 pages, 56 000 entrées, et le soin avec lequel ce dictionnaire est fait de première main, et non pas en compilant des dictionnaires antérieurs, eh bien on mesure que faire cela en 5 ans, c'est proprement inimaginable. Il faut, enfin, on parle de l'efficacité japonaise, mais enfin, c'est, là on en a la preuve sous la main. Donc là, lors de sa première conférence, la semaine dernière, M. Matsumura a répondu à cette question « Comment lire les dictionnaires du français médiéval ?» Mais à vrai dire, cette question « Comment lire les dictionnaires, un dictionnaire médiéval voulait dire « Comment lire de façon critique les dictionnaires de ses prédécesseurs hein, ?» dont il nous a montré, il a commencé à nous montrer, parce qu'il va continuer aujourd'hui, à la fois les forces et les faiblesses. Il avait rendu, d'ailleurs, avant d'en montrer naturellement les limites, c'est un travail très ancien, il avait montré les mérites du Godefroy, hein, du vieux Godefroy, fait il y a si longtemps, fait tout seul par Godefroy, et il se rencontrait avec mon maître Félix Lecoix, qui avait toujours, manifestait toujours la plus grande considération pour Godefroy. Aujourd'hui, il va aborder une question qui est une question d'autant plus importante qu'elle n'a pas toujours été abordée avec un soin suffisant et que du coup, elle est, je ne dirais pas à la mode, mais elle préoccupe les philologues d'aujourd'hui. Le titre est « Sur le caractère régional du vocabulaire ». Et en effet, comme il avait commencé à nous le montrer la dernière fois, et comme il va continuer en suivant le fil des dictionnaires, eh bien, il ne suffit pas de trouver un mot attesté, il faut savoir où il est attesté. Et ça a non seulement un intérêt pour l'histoire de la langue et des parlers régionaux, mais, je parle dans mon sens, ça a aussi un intérêt littéraire, parce que cela montre le développement d'une koiné littéraire à partir d'un dialecte particulier qui jouit d'un prestige spécial, ou cela montre des effets de style fondés sur le recours à des régionalismes. Ce sont des recherches que les occitanistes en particulier mènent actuellement avec passion, pas Perugi par exemple, ou Françoise Dufray. Et Takeshi Matsumura est incollable sur ces questions s'agissant du vocabulaire français. Et un dernier mot, j'étais trop long, pour Takeshi Matsumura préfère que la discussion soit concentrée à la fin de ces 4 cours qui forment un tout. Parce que sinon, les discussions risquent d'être répétitives. On risque de lui poser des questions auxquelles il répond dans la séance suivante. Et il préfère que les auditeurs, dont il suppose qu'ils seront aussi consciencieux qu'il l'est lui-même en toute chose, possèdent bien l'ensemble de son propos avant d'intervenir. Donc aujourd'hui, nous fonctionnerons comme un cours du Collège de France. Hein. Il arrive, il parle, il s'en va. Mais à la dernière séance, il en ira tout autrement. Mon cher, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup de cette présentation. Et
je montre la Bible.
Donc, la semaine dernière, j'ai dit que pour comprendre le français médiéval, il fallait utiliser, avec un esprit critique, trois instruments de travail. Le dictionnaire de Godefroy, l'Alt-Französisches Wörterbuch de Tobler-Lomatsch et le Französisches Etymologisches Wörterbuch de Walter von Wartburg. Car le dictionnaire étymologique de l'ancien français, qui pourrait nous servir de modèle, est loin d'être achevé. Et j'ai insisté surtout sur les qualités et défauts de Godefroy et de Tobler-Lomatsch. Aujourd'hui, je reprends ma critique de Tobler-Lomatsch. Je vous ai déjà parlé de la façon dont il se contente de renvoyer à Godefroy sans trop se soucier de la valeur de ses citations. Le roman d'Attis et Profilias et l'autre Périu que j'ai évoqué comme exemple des œuvres qu'ils n'ont pas citées appartiennent au genre romanesque. Puisque ce sont des romans en vers, genre qu'ils ont privilégié, ils auraient pu mériter un peu plus d'attention de leur part. Dans d'autres genres littéraires qui devaient leur être familiers également, on trouve aussi des œuvres curieusement absentes. Le cycle des Laurens est un de ces cas. La geste des Laurens est composée de 5 chansons de geste. Hervy de Metz, Garin le Laurent, Gerbert de Metz, La vengeance de Fromondant et Anseïs de Metz. Godefroy avait dépouillé ces œuvres avec un soin particulier et donc on trouve dans son dictionnaire de nombreuses citations qu'il en a tirées. Par contre, Tobler-Lomatsch ne semble pas être très intéressé par ce cycle. Comme exemple, on peut comparer l'article « Alouette » de Godefroy et celui de Tobler-Lomatsch. Ce mot signifie « Alouette ». L'article « Alouette » se trouve dans le complément de Godefroy. Sa première citation provient de ce qu'il appelle « Les Laurens, manuscrits de Montpellier, folio 99 ». Daté de quatrième quart du deuxième siècle, elle doit être la plus ancienne de ces citations. Or, Tobler-Lomatsch reprennent dans leur article Alouette du tome 1er la deuxième citation de Godefroy, qui vient des Alt-Französische Romanzen und Pastoren de Karl Bartsch, et qui semble être postérieure à celle du cycle des Laurens. On ne voit pas pourquoi l'attestation des Laurens est ainsi négligée. Il est vrai que Godefroy l'a cité d'après une source manuscrite, mais il n'est pas impossible de retrouver le passage en question dans l'édition de Garin le Laurent, publiée par Paul en Paris en 1835. On peut le vérifier maintenant dans une publication plus récente et plus fiable de la même chanson de geste, due à Anne Iker Gittelmann. D'autres genres qui ne sont pas très littéraires aux yeux des lecteurs modernes sont également assez négligés par Tobler-Lomatsch. La médecine est un de ces domaines qui ne les ont pas intéressés très fort. On sait bien sûr qu'ils ont cité assez souvent la chirurgie d'Henri de Mondeville, d'après l'édition d'Alphonse Bos, et diverses recettes médicales parues dans la Romagna et ailleurs. Mais par rapport à Godefroy, leur intérêt pour la médecine me paraît un peu moins fort. Citons comme exemple le mot furoncle, qui désigne une infection qu'en français familier on appelle le clou. Ce terme de médecine est enregistré dans le complément de Godefroy avec 4 citations. Par contre, le dictionnaire de Tobler-Lomatsch s'est abstenu de l'accueillir, sans doute. Ils ont jugé que les attestations relevées par Godefroy étaient trop tardives et que le mot n'existait pas en ancien français. Pour savoir s'ils ont eu raison ou non, il faut examiner la première occurrence que Godefroy a citée dans son article Furoncle. Orthographiée Furoncle avec un E, elle provient de ce qu'il appelle le livre de physique, et c'est un manuscrit de Turin qu'il a utilisé. C'est un texte peu connu, mais la bibliographie du dictionnaire étymologique de l'ancien français nous apprend qu'il s'agit d'un recueil de recettes médicales qu'on attribue à Jean Pitard et qui date du début du XIVe siècle. De plus, ce recueil a été publié en 1908 par Sutroff. Donc, si l'on pouvait retrouver la citation de Godefroy dans cette édition moderne, on ne devrait pas omettre le mot dans un dictionnaire d'ancien français. Apparemment, Lomach n'a pas fait de recherche. Pourtant, s'il avait jeté un coup d'œil sur l'édition de Sutroff, il aurait pu y retrouver sous la graphie Furoncle. Sa négligence a eu une répercussion fâcheuse, car aucun des lexicographes qui ont suivi Tobler-Lomach ne s'est donné la peine de vérifier la citation de Godefroy. Je pense par exemple à la partie diachronique de l'article Furoncle du Trésor de la langue française. L'équipe qui a rédigé cette notice a indiqué seulement que Godefroy avait cité une attestation d'après un manuscrit de Turin et qu'elle pourrait être datée d'avant 1376. Il en va de même pour le dictionnaire du moyen français. Son article Furoncle se contente de signaler que Godefroy a cité la graphie Furoncle d'après un document de 1376, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que le document daté de 1376 est la source de la deuxième attestation citée par Godefroy et que sa première citation ne vient pas d'un texte de cette année-là. Un autre défaut du dictionnaire de Tobler-Lomach vient du fait qu'ils utilisent les éditions modernes peu satisfaisantes. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les deux lexicographes ne manquent pas de soucis philologiques et ils sont parfois retournés au manuscrit pour corriger telle ou telle lecture défectueuse d'une édition moderne. Mais il leur arrive de laisser passer de mauvaises leçons sans s'apercevoir qu'elles ne correspondent pas tout à fait au manuscrit de base. Le résultat est que des mots fantômes ou des attestations inexistantes sont glissés dans leur dictionnaire. Une des éditions défectueuses utilisées par Tobler-Lomach est celle de la branche des royaux lignages de Guillaume Guillard, publiée par Buchon en 1828. Cette publication est assez connue comme un ouvrage qu'il faut manier avec précaution. Nathalie de Vailly et Léopold de Lille ont donc publié en 1865 de larges extraits de la partie qui correspond au deuxième tome de l'édition de Buchon. Mais depuis, personne n'a réédité cette œuvre difficile. Tobler-Lomach savait bien que le vocabulaire de Guillaume Guillard méritait d'attirer notre attention, et ils ont cité abondamment l'édition de Buchon. Ce faisant, il leur est arrivé de se laisser tromper par de mauvaises lectures de cette publication. L'article Arreret, donc je vais l'écrire Arreret, de leur tome premier, est un de ces cas. Selon Tobler-Lomach, c'est un substantif masculin, mais le sens n'est pas clair. Au lieu d'une définition, ils mettent un simple point d'interrogation. Cet article contient une seule citation tirée de la branche des royaux lignages. Le mot se trouve au vers 5969 du tome premier. Quand vit ces arrerets fuir ? Comme il est dans le premier volume de l'édition de Buchon, celle de Vailly et de Lille ne peut pas nous aider à élucider le passage. Quand on fait un dictionnaire du français médiéval, qu'est-ce qu'il faut faire de ce mot ? Faut-il l'accueillir tel quel et lui proposer un sens avec point d'interrogation ? Ou bien devra-t-on le passer sous silence pour ne pas avouer qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait dire ? À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est de retourner au manuscrit unique qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. C'est le manuscrit fond français 5698. Si l'on consulte le passage correspondant dans le manuscrit, l'énigme disparaît tout de suite. Car on lit non pas « arreret », mais tout simplement ennemi, au sens de ennemi, personne qui fait la guerre contre quelqu'un. On peut ainsi supprimer l'article arrêté de Tobler au match et ranger l'attestation de Guillaume Guillard dans l'article ennemi comme une des nombreuses occurrences du mot. Bien qu'elle ait été publiée ainsi d'une manière assez malheureuse par Buchon, l'œuvre de Guillaume Guillard nous fournit des attestations précieuses. Parmi les mots qu'on y trouve, il y en a même qui sont absents du dictionnaire de Tobler au match. Cela me conduit à vous parler d'un autre défaut de ce dictionnaire. Il s'agit d'une absence quelquefois inattendue de mots. Ce sont des mots qui existaient en ancien français, mais que curieusement, les deux lexicographes n'ont pas recueillis dans leur ouvrage. Est-ce que c'était un simple oubli, ou bien une omission volontaire? On ne voit pas trop bien les raisons pour lesquelles ils sont négligés. Et cela infirme l'image qu'on se fait d'habitude de la nomenclature de Tobler au match par rapport à celle de Godefroy. Comme exemple d'un mot absent du dictionnaire de Tobler au match, on peut citer le substantif piéton, qui signifie fantassin. Il est enregistré par Godefroy dans son complément. Il cite 5 exemples, dont le plus ancien date d'environ 1310. Il s'agit d'un passage de l'histoire des Normands composée par Aimé. L'édition procurée par Champollion confirme que le mot est présent dans le passage cité par Godefroy. Puisque cette attestation est antérieure à 1350, le mot aurait eu le droit d'être enregistré dans le dictionnaire de Tobler au match. Mais sauf erreur de ma part, il ne s'y trouve pas. Pourtant, dans son fascicule, paru avant celui de Tobler au match, le Französisches Etymologisches Wörterbuch de Wartburg avait bien repris les informations de Godefroy. Or, si l'on consulte d'autres instruments de travail, on constate quelque chose d'un peu étrange. Avant Godefroy, le dictionnaire de Littré avait cité comme l'exemple le plus ancien la chanson de geste de Hugues Capet qui date d'environ 1358. S'il n'a pas été repris dans le complément de Godefroy, c'est sans doute parce que la graphie piéton de Hugues Capet avec un « i » paraissait trop banale et que le rédacteur a jugé superflu de répéter ce qu'on lisait chez Littré. Quoi qu'il en soit, cette occurrence du milieu du XIVe siècle est citée ensuite par le Trésor de la langue française comme la plus ancienne du sens de fantassin. Le dictionnaire de moyen français, qui ne s'intéresse qu'à la période postérieure à 1330, la reprend naturellement dans son article piéton. Ainsi, l'attestation de l'histoire des Normands est passée sous silence dans nos instruments récents. Si vous voulez faire un dictionnaire du français médiéval, vous aurez donc intérêt à reprendre cette occurrence d'environ 1310 comme la plus ancienne qu'on connaisse jusqu'ici. Mais en fait, le mot apparaît dans un texte un peu antérieur. Il s'agit d'un passage de la chronique des royaux lignages de Guillaume Guillard, datée d'environ 1307. La lecture de l'édition de Buchon est bien confirmée par le manuscrit. Ainsi, malgré la mauvaise qualité de cette édition, si on relit Guillaume Guillard, on peut y trouver des attestations historiquement intéressantes. Il y a encore d'autres défauts dans le dictionnaire de Tobler au match. Par exemple, un texte du XVIe siècle est considéré à tort comme une œuvre médiévale et il est cité abondamment. C'est ce qu'on voit dans leur traitement du Bon Berger. Bien que ce texte ne soit connu que d'après des imprimés du XVIe siècle, les deux lexicographes le citent très souvent. Mais je n'insiste pas davantage car le cas malheureux du Bon Berger est assez bien connu. Pour évoquer d'autres défauts de Tobler au match, on peut signaler qu'il cite parfois un même passage dans deux articles différents. C'est ce qui se passe sous les vedettes Palais et Poulet. Ou bien, il arrive qu'un passage cité pour illustrer un mot ne le contienne pas. C'est ce qu'on trouve dans l'article Largitude. Ces fautes sont sans doute inévitables dans une entreprise de longue haleine. Mais il y a une autre caractéristique de leur dictionnaire sur laquelle il faut insister davantage. Car elle a eu une répercussion profonde et durable dans l'esprit des lecteurs. C'est l'absence presque totale d'indications géographiques des mots. Cette caractéristique est celle qu'on trouvait déjà dans le dictionnaire de Godefroy. Comme je vous l'ai rappelé la dernière fois, la notice sur les verbes « sensier » et « essentier » de Gaston Paresque est bien signalée dans l'article « essentier » de Toubler-Lomatch. Mais dans cet article, on ne trouve aucune indication explicite sur le caractère régional du mot. Ainsi, les lecteurs pressés, c'est-à-dire presque tous les lecteurs, ne peuvent jamais imaginer que le mot essentiel ait une diffusion restreinte. Ils pensent tout naturellement qu'il appartient à l'ancien français standard. Pour parler d'un autre cas semblable, on peut citer les articles sur le substantif conombrage et le verbe conombrer dans le dictionnaire de Toubler-Lomatch. Dans ces deux articles, les lexicographes donnent la définition. Action de travailler ou fumer la terre, et renvoie au dictionnaire de Godefroy et à un article d'Antoine Thomas paru dans la revue romanienne de 1904. On n'y trouve pas de citation textuelle. Il faut retourner à l'article d'Antoine Thomas pour savoir, d'abord, que l'interprétation donnée par Godefroy au substantif conombrage n'était pas bonne. Ensuite, que les mots conombrage et conombrer sont attestés dans une charte de l'hôpital de La Rochelle datée de 1297, et enfin qu'il s'agit d'un mot régional. Bref, si Toubler-Lomatch, qui était au courant de toutes les études pointues qui se publiaient dans des revues spécialisées, avait pris le parti d'en extraire, même brièvement, la conclusion sur le caractère régional de certains mots, ils auraient pu avertir leurs lecteurs que tous les mots enregistrés dans le dictionnaire n'ont pas une diffusion large. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Alors, pour remédier à cette situation, que pourront faire ceux qui sont embarrassés par une masse d'études dispersées et qui ne sont pas au courant de ce qui était dit dans ces travaux? Dans un premier temps, ils doivent se reporter au Französisches Etymologisches Wörterbuch de Walter von Wartburg, appelé le FEW. Je vous rappelle que le dictionnaire étymologique de Wartburg, publié en 25 volumes entre 1922 et 2002, est un instrument indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la géographie du français. Il est utile non seulement pour les lecteurs de textes médiévaux, mais aussi pour ceux qui lisent des œuvres plus récentes. Ce fait ne me semble pas être assez connu des spécialistes des lettres modernes. J'y reviendrai dans un instant. Si le dictionnaire de Wartburg n'est pas utilisé aussi souvent qu'il le mérite, c'est sans doute parce qu'il n'est pas très facile à manier. Pour un profane qui, partant d'un mot qui l'intéresse, voudrait trouver dans le FEW l'article qui le concerne, la démarche à faire n'est pas très aisée, car il faut savoir tout d'abord que les mots y sont rangés selon leur étymologie. Si l'on ne connaissait pas l'étymologie du mot qui vous intéresse, l'on ne pourrait pas parvenir à l'article que l'on cherche. Depuis 2003, il existe certes un index général établi par Eva Bussy et ses collaborateurs. Grâce à cet index qui couvre l'ensemble des 25 volumes, la tâche des lecteurs est devenue beaucoup plus facile qu'auparavant. Mais il faut savoir qu'il ne recense pas tous les mots et que parfois on a besoin d'une petite astuce pour trouver ce qu'on cherche. Cependant, même si l'on réussit à trouver l'article qui vous intéresse, d'autres difficultés vous attendent. Car les articles du FEW sont écrits avec une extrême concision. On a d'abord besoin de déchiffrer toutes les abréviations, soit linguistiques, soit bibliographiques. Ensuite, on doit être capable de deviner tout ce que cache telle ou telle date, ou tel nom d'auteur, ou titre d'ouvrage. Comme ce n'est pas un dictionnaire philologique, sauf dans quelques cas exceptionnels, on n'y trouve aucune citation. Au lieu d'une citation, les attestations sont évoquées soit par une date, soit par un nom d'auteur, ou un titre d'ouvrage en abrégé, soit sans aucune référence. Chaque fois, les lecteurs doivent donc partir à la recherche de ce qui est indiqué avec laconisme dans les articles du FEW. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du mot piéton au sens de fantassin, mot qui est absent du dictionnaire de Toubler-Lomagne. Dans son article Pelitare, Wartburg nous apprend que le mot est attesté vers 1300 sous forme de péton. Si je ne me trompe pas, cette indication désigne l'attestation du mot dans l'histoire des Normands composée par Aimé. Mais pour deviner cette source, il faut savoir d'une part que l'FEV utilise en général pour le français médiéval le dictionnaire de Godefroy ou de Toubler-Lomagne, et d'autre part que l'histoire des Normands est datée souvent d'environ 1300 par Wartburg. Sans ces connaissances préalables, on n'arriverait jamais à deviner ce qui se cache sous l'indication laconique qu'on lit dans l'article Pelitare. Et pourtant, si l'on surmonte toutes ces difficultés, on trouve souvent dans le dictionnaire de Wartburg des indications précises sur l'histoire et la géographie des mots, des expressions et des significations. Car il faut se rappeler que la science étymologique n'est pas une simple recherche d'une origine plus ou moins lointaine des mots. Ce que Wartburg pratique dans son ouvrage est une recherche globale sur toute l'étendue temporelle et spatiale des mots et de leur famille. Non seulement l'ancien français, le moyen français et le français moderne font l'objet de son examen, mais aussi les attestations dialectales modernes sont enregistrées avec renvoi aux sources utilisées. Une lecture assidue et critique de cet ouvrage permet au lecteur d'avoir conscience de la dimension historique et géographique du vocabulaire, telle qu'on la trouverait difficilement dans d'autres dictionnaires. En ce qui concerne les indications géographiques qu'on trouve dans le dictionnaire de Wartburg, on peut prendre comme exemple le substantif masculin costil, au sens de coteau. Le mot est enregistré aussi bien par Godefroy que par Toubler-Lomagne. Tandis que Godefroy cite le voyage de Saint-Brandin, le psautier d'Oxford et la vengeance raguidelle de Raoul de Houdin, Toubler-Lomagne y ajoute l'histoire de la guerre sainte d'Ambroise. Mais ces deux dictionnaires ne disent pas explicitement dans quelle région le mot est attesté. Par contre, dans son article Costa paru dans le deuxième tome, Wartburg propose au mot costil une localisation. En effet, il qualifie d'un mot de l'ancien normand et de l'anglo-normand. Les attestations dialectales modernes qu'il enregistre sont également normandes. Le compte-rendu de la vengeance de Raguidel par Gilles Rouc, paru dans la revue critique de philologie romane, confirme l'hypothèse proposée par Wartburg. En partant de cette information, on pourrait ajouter le mot costil dans la liste des mots régionaux que Mme Catherine Croisinaquet a établie dans sa récente édition de l'Histoire de la guerre sainte, parue en 2014. Naturellement, aucune des localisations proposées dans le FEV ne peut être suivie aveuglément. Chaque fois, il faut vérifier les sources sur lesquelles elles se reposent. Néanmoins, une lecture assidue du dictionnaire de Wartburg nous donne souvent l'occasion de nous demander si tel ou tel mot a un caractère régional ou non. C'est un exercice si utile qu'il est difficile de faire si l'on se contente de consulter seulement Godefroy et Toubler-Lomagne. C'est pour cela que dans mon dictionnaire, je donne des renvois systématiques au FEV. Le dictionnaire de Wartburg est par ailleurs utile pour tous ceux qui veulent connaître l'étymologie des mots, comme son titre déclare, bien entendu. Les lecteurs qui ne lisent que les dictionnaires de Godefroy et de Toubler-Lomagne ne sont pas toujours capables de remonter à l'étymologie. Certes, Toubler-Lomagne renvoie largement au FEV, mais il leur arrive de s'en abstenir. Par exemple, leurs articles Enchotesse et enchoture, paru dans le troisième volume, ne donne aucune indication étymologique. On y apprend seulement que ces deux mots signifient « ordure » et qu'ils se lisent dans la version poitevine des sermons de Maurice de Sully. Comme référence complémentaire, on n'a que des renvois à Godefroy et un article d'Antoine Thomas, paru dans la Romagna de 1909. Si l'on cherche les mots enchôtesse et enchôture dans le dictionnaire de Wartburg, on les trouve dans le tome 3 sous l'entrée Enkaustum. Cette étymologie que d'ailleurs a proposée Antoine Thomas nous permet de comprendre que le sens de ordure vient du sens primitif de ce qui est sali, barbouillé d'encre. Le FEV nous donne non seulement cet étymon, mais aussi il qualifie ces mots d'anciens poitevins. Cette localisation avancée pour l'attestation ancienne dans les sermons de Maurice de Sully est confirmée par les attestations dialectales modernes qui y sont enregistrées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la lecture de FEV n'est pas très facile. La concision de sa présentation est une des raisons pour lesquelles les lecteurs n'arrivent pas toujours à trouver ce qu'ils cherchent. Mais ce n'est pas tout. Comme le FEV a plusieurs défauts, certains lexicographes ont publié des instruments de travail pour le compléter. Les lecteurs du FEV doivent connaître l'existence de ces compléments et les utiliser chaque fois qu'il est nécessaire. Parmi les défauts du FEV, il y a ce qu'on appelle les étymologies doubles. Comme c'est une entreprise de longue haleine, on a des cas où un mot est traité dans plusieurs endroits différents. Dans ces cas, il est difficile de les retrouver tous et de réunir les informations éparpillées. Même les lexicographes aguerris n'y arrivent pas toujours. Prenons comme exemple le verbe « mauvais »,« malvé ». Qui signifie « souiller ». Il est recueilli dans le volume 23 du dictionnaire de Wartburg, où l'on apprend aussi que le mot se lit dans le psautier d'Oxford. Le volume 23 est un des volumes qui sont consacrés aux mots d'étymologie inconnue ou incertaine et dans lesquels les mots sont rangés selon leur signification. Si le verbe y est enregistré, c'est donc parce que Wartburg l'a considéré comme d'origine obscure. Or, pour ces volumes qui réunissent les mots d'étymologie inconnue ou incertaine, nous avons maintenant un instrument de travail indispensable. Ce sont les trois volumes que Kurt Badinger a publiés sous le titre de Étymologie entre 1988 et 2003. Kurt Badinger et ses collaborateurs ont rassemblé dans ces volumes un grand nombre de compléments et de corrections sur les mots que Wartburg a jugé d'origine obscure. Si l'on cherche le mot mauvais dans cet instrument, on le trouve sur le numéro 3788. Là, on apprend que le verbe doit être rattaché à l'étymon malva qui se trouve dans le sixième volume, première partie. Et Kurt Badinger ajoute que dans un complément paru dans la troisième partie du volume 6, Wartburg avait ajouté que le verbe mauvais du psautier d'Oxford était rangé dans l'article malvé. Ainsi, on voit qu'il faut supprimer la mention du verbe mauvais dans le volume d'étymologie inconnue ou incertaine. Pour un lecteur de l'article malué de Godefroy et de l'article mauvais de Toblerone qui ne propose aucune étymologie, il serait très difficile de parvenir à cet article malva du FEV. Si vous voulez savoir que même des lexicographes expérimentés se laissent tromper par ces étymologies doubles, il vous suffit de consulter sur Internet The Anglo-Norman Dictionary. Ce dictionnaire a eu d'abord une première édition assez sommaire en papier, publiée entre 1977 et 1982. La deuxième édition, qui a commencé à paraître en 2005 et qui n'est pas encore achevée, est entièrement revue et on peut maintenant la consulter sur Internet. Or, pendant longtemps, ce dictionnaire anglo-norman s'est abstenu de renvoyer aux autres dictionnaires. Il se présentait comme un produit indépendant qui ne tenait pas compte des travaux de ses prédécesseurs. Cette attitude a été souvent critiquée. Or, sans doute convaincu de la nécessité de se référer aux études antérieures, depuis ce qui s'appelle la deuxième phase, à savoir depuis la lettre F, les rédacteurs ont commencé petit à petit à donner en tête de chaque article une liste de renvois aux dictionnaires existants. On peut donc s'attendre à ce que dans un article de la lettre M, il y ait une liste fiable de références. Mais si vous consultez l'article Maluet du dictionnaire anglo-normand, vous verrez qu'il ne fait que renvoyer au volume 23 du FEV. Apparemment, les rédacteurs se sont contentés de consulter l'index général élaboré par Eva Bussy et ses collaborateurs, qui, pour ce verbe, ne signalent que le volume d'étymologie inconnue ou incertaine. Ou bien, ils sont allés sur le site internet du FEV, dans lequel toute recherche est fondée sur le même index. Ils n'ont regardé ni l'addenda du volume 6, ni les étymologies de Kurt Badinger. Un autre complément indispensable du FEV est l'ouvrage de Raymond Arveillé intitulé « Addenda au FEV 19 Orientalia » que Max Pfister a publié en 1999. Comme le titre ne le rappelle, le volume 19 du FEV est consacré au monde d'origine orientale. Raymond Arveillé s'est aperçu très tôt de son insuffisance et il a publié pendant 27 ans 25 articles pour le compléter. Ce sont ces articles qui sont réunis dans l'ouvrage. Pour les lecteurs du dictionnaire de Wartburg, c'est un complément qu'il faut consulter chaque fois qu'ils ont besoin de s'informer sur les mots d'origine orientale. Pour vous montrer comment il peut nous rendre service, prenons comme exemple le substantif masculin « kafr ». Il est recueilli dans Godefroy avec deux citations de Gauthier de Coincy d'après un manuscrit de la Bibliothèque nationale de France. Dans son dictionnaire, Godefroy considère le mot kafre comme adjectif et il lui donne le sens de couvert d'une maladie hideuse de la peau. De son côté, le dictionnaire de Tomblay-Lomatch cite les mêmes attestations de Gauthier de Coincy d'après l'édition de Méon. Il qualifie le mot d'un adjectif substantivé, mais ils ne disent pas ce qu'il signifie. Ils ne donnent même pas de point d'interrogation. Quant à Wartburg, il rattache le mot kafre à l'étymon arabe kafir et il le range dans le volume 19. Ce faisant, il le considère comme un adjectif qui signifie lépreux. Il s'inspire sans doute de Godefroy et de l'édition du 9e miracle du 12e recueil de Gauthier de Coincy, publié par Eric Kremer en 1953. Ce sens de lépreux est adopté aussi récemment par M. Olivier Collet. En effet, dans son glossaire et index critique des œuvres d'attribution certaines de Gauthier de Coincy, paru en 2000, il donne cette interprétation tout en renvoyant au FEV. Si l'on consulte l'ouvrage de Raymond Arveillé, on voit qu'il complète, à la page 222, ce que disait Wartburg. En se fondant sur deux thèses soutenues à Paris et à Zurich, Raymond Arveillé propose de donner au mot kafre non pas le sens de lépreux, mais celui de infâme, traître, parce qu'il convient mieux à son origine et à son emploi chez Gauthier de Coincy. Pour comprendre le vocabulaire difficile de l'auteur des Miracles de Notre-Dame, cette remarque méritait d'être prise en considération. C'est pour cela que dans l'article kafre de mon dictionnaire, j'y ai renvoyé. Les lecteurs pourront ainsi juger eux-mêmes si la définition adoptée convient ou non et si les arguments de Raymond Arveillé sont valables ou non. Vous avez compris, j'espère que les ouvrages de Kurt Ballinger et de Raymond Arveillé doivent être toujours à côté des 25 volumes du FEV. Mais malgré leur aide efficace, la lecture des FEV n'est pas très facile. Une des raisons pour lesquelles il est difficile à déchiffrer est, comme on l'a vu, qu'il ne donne pas de citations textuelles comme les dictionnaires de Godefroy et de Tomblay-Lomatch, mais qu'il ne donne que des renvois soit à une date, soit à un titre, soit à un nom d'auteur. Ces références sont tellement laconiques que même si elles sont exactes, elles ne sont pas toujours très aisées à comprendre. Si elles sont fautives, cela complique davantage la tâche des lecteurs. Et cela arrive assez souvent. Comme un exemple de datation problématique, on peut revenir sur le substantif arçon au sens de petit arc. Dont j'ai parlé la semaine dernière. Si vous consultez l'article archéo paru dans le volume 25 du FEV, vous constaterez que le mot arçon au sens de petit arc est attesté depuis le psautier d'Oxford jusqu'en 1394. Même si l'on y trouve d'autres références, ce sont toutes des œuvres postérieures au psautier d'Oxford qui datent de la première moitié du IIe siècle. Les lecteurs pressés seraient donc contents de savoir que le sens de petit arc du substantif arçon est connu depuis la première moitié du IIe siècle. Mais si vous vouliez faire un dictionnaire de français médiéval avec, pour chacune des significations, non pas un simple renvoi, mais une citation textuelle, vous seriez obligé d'aller chercher le passage du psautier d'Oxford qui contient le mot arçon. Il y a plusieurs façons de rechercher cette attestation. D'abord, on peut lire ou relire le psautier d'Oxford dans l'édition publiée par Francisque Michel en 1860. Comme cette édition n'a pas de glossaire, on ne peut pas trouver facilement le mot qui nous intéresse. On doit parcourir les 260 pages de ce texte en prose. Mais après avoir lu ainsi le texte, vous constaterez que le mot semble en être absent. Peut-être vous l'avez lu trop rapidement. Alors, vous vous souvenez sans doute que le psautier d'Oxford est un texte anglo-normand et par conséquent que le dictionnaire anglo-normand sur Internet doit avoir cité le mot arçon dans le sens de petit arc avec la citation à laquelle nous renvoie Wartburg. Vous allez alors consulter le dictionnaire. Mais malheureusement, son article arçon ne contient ni le sens de petit arc, ni l'occurrence du psautier d'Oxford. Arrivé à ce point, vous pouvez aller voir le dictionnaire de Tobler-Lomatch, dont le sérieux est bien connu. Pourtant, si vous lisez son article arçon du tome 1er, vous serez déçu. Pour le sens de petit arc, vous avez plusieurs citations tirées de Chrétien III, de Gauthier de Coincy, etc. Mais il n'y a aucune trace du psautier d'Oxford. Vous commencerez sans doute à être dégoûté par la difficulté et vous serez tenté d'abandonner toute recherche sur cette première attestation énigmatique. Mais si vous voulez faire un peu plus d'efforts, vous pouvez retourner au dictionnaire de Godefroy en vous disant que finalement, Wartburg aurait dû utiliser cette source. Vous êtes alors en bonne voie, parce que l'article arçon de Godefroy cite en premier lieu deux vers dont il dit qu'ils sont tirés du psautier d'Oxford. Est-ce donc la première attestation que vous pourrez citer dans votre dictionnaire de français médiéval? Malheureusement, non. Car, d'une part, le passage cité est écrit en vers et non pas en prose. Et d'autre part, il se trouve à la page 285 de l'édition de Francisque Michel. Ce qui signifie qu'il n'appartient pas au psautier d'Oxford composé en prose dans la première moitié du IIe siècle, mais à un autre texte que l'éditeur a publié en annexe. Il s'agit de ce qu'on appelle le psautier métrique. Il date du XIIIe siècle. De plus, c'est un texte continental, plus précisément originaire de l'Est, et non pas un texte anglo-normand. C'est pour cela que l'anglo-normand dictionary n'a pas recueilli cette attestation. Ainsi, toute cette recherche laborieuse aboutit à une conclusion. La première attestation donnée par Wartburg, qui a lieu trop vite, Godefroy, n'est pas le témoignage le plus ancien du mot arçon au sens de petit arc. Une nouvelle recherche est nécessaire pour savoir quelle est l'occurrence la plus ancienne. Dans l'état actuel de notre connaissance, c'est dans Guillaume d'Angleterre, roman attribué à Chrétien III et daté d'environ 1170, qu'on trouve l'occurrence la plus ancienne du mot. Vous aurez ainsi compris que les références du FEV, qui semblent être très pratiques, avec leurs datations et les renvois aux textes ou aux auteurs, doivent être toujours contrôlés. Autrement, on risque souvent de se tromper sans s'apercevoir que ces affirmations contiennent des fautes dissimulées. Pour la localisation également, on a parfois besoin de compléter ou de corriger le dictionnaire de Wartburg par des études dispersées qu'un certain nombre de savants ont publiées dans leurs livres et leurs articles ou comptes rendus. Je ne prétends pas que toutes ces contributions soient reprises dans mon dictionnaire. Il doit y avoir plusieurs oublis, mais j'ai essayé d'y renvoyer dans la mesure du possible. Prenons comme exemple le verbe intransitif « cester » qui signifie « trébucher ». Il est rattaché à l'étymon « caespitare » dans le volume 2 du dictionnaire de Wartburg. Là, il est qualifié d'ancien français et l'on ne trouve aucune proposition de localisation. Faut-il se contenter de cette indication et considérer le verbe comme largement répandu en ancien français? Certes, comme d'habitude, l'article cesté de Godefroy et celui de Toblerone ne disent rien de particulier sur le caractère régional du verbe. C'est à Gilles Roc qu'on doit une mise au point sur cette question. Dans la revue de linguistique romane de 1994, il a souligné en effet que le mot était attesté dans des textes d'origine normande, anglo-normande et tourangelle. Sa proposition est fondée sur les exemples cités par Godefroy et Toblerone. Les attestations qu'on peut y ajouter, comme celle des proverbes de Salomon par Samson de Nanteuil, vont dans le même sens. Tant qu'on n'aura pas trouvé des occurrences qui proviennent d'autres régions, on pourra admettre l'hypothèse de Gilles Roc et ajouter cette localisation à l'article Caespitare. Le dictionnaire de Wartburg est ainsi souvent à compléter par des études dispersées de lexicographes comme Gilles Roc. Il va sans dire qu'il y a bien d'autres savants qui ont contribué à souligner le caractère régional du vocabulaire. Je vous ai parlé la semaine dernière de Gaston Paris à propos des verbes sensier et sensier, et d'Antoine Thomas à propos des mots conobrage et conobré, et enchotesse et enchoture aussi. Plus près de nous, on peut se rappeler que Albert Henry a relevé plusieurs mots remarquables par leur diffusion restreinte. Parmi les mots qu'il a étudiés, il y a le substantif masculin « garl » qui signifie « bonde ». Il est attesté dans un chapitre des bandes de police de la fin du XIVe siècle, conservé aux archives de l'État à Mons. Albert Henry a étudié ce texte dans son ouvrage sur le langage œnologique en langue d'oïl, en le rapprochant d'autres textes d'archives publiés par Noël Dupire et Léo Verrieste. Il a établi que le mot signifie « bonde dans ton nom » et que c'est un mot picard, encore que son étymologie soit inconnue. Cette localisation a été adoptée ensuite par Jean-Paul Chauveau dans la deuxième partie du volume 22 du FEV. Mais curieusement, le dictionnaire du moyen français qui se réfère au FEV et à l'ouvrage d'Albert Henry ne dit rien sur le caractère régional du mot. On peut regretter que l'information ait disparu ainsi sur ce site internet, dont la visibilité est beaucoup plus grande que le travail de lexicographe belge. Comme un autre complément du FEV, on peut se rappeler que le dictionnaire des régionalismes de France, publié en 2001 sous la direction de Pierre Rézeau, peut également rendre service aux lecteurs du français médiéval. Il est vrai que ce dictionnaire étudie des mots régionaux contemporains, mais la notice historique qui accompagne chacun de ces articles nous permet de savoir si tel ou tel régionalisme d'aujourd'hui remonte à l'époque ancienne et dans quelle mesure son extension géographique s'est maintenue ou modifiée au cours du temps. Si l'on prend un exemple, on pourra choisir le mot « mucre » qui est étudié à la page 699 du dictionnaire des régionalismes de France. Quand il est employé comme adjectif, il signifie humide, moisi, et utilisé comme substantif, il a le sens de humilité moisissure. C'est un mot normand qui est ensuite passé au Québec, en Acadie et en Louisiane. Les attestations dialectales modernes relevées par l'article Migra du tome 16 du FEV confirment cette localisation. Comme nous le rappelle la notice historique du Dictionnaire des régionalismes de France, déjà sa première attestation se trouve dans une œuvre composée par un auteur normand. Il s'agit de l'Évangile de Nicodème d'André de Coutances, qui date du début du XIIIe siècle. En fait, on peut corriger et compléter un peu la notice historique de l'article Mucre de ce dictionnaire. D'abord, une petite correction. Le rédacteur a confondu l'Évangile de Nicodème d'André de Coutances avec deux autres versions du même évangile en vers et il a considéré comme anglo-normand. Certes, les deux autres versions publiées par Gaston Paris et Alphonse Boss sont d'origine anglo-normande, mais la version d'André de Coutances qu'ils ont éditée dans le même volume est normande. Si l'on en croit l'anglo-normand dictionary, il me semble que le mot n'a jamais existé en Angleterre, parce qu'il n'a pas l'article Mucre. Ainsi, il me paraît plausible que le mot a été toujours normand depuis le début, et non pas qu'il est passé de l'anglo-normand en Normandie, comme le dit le rédacteur de l'article Mucre du Dictionnaire des régionalismes de France. Ensuite, on pourra compléter un peu la notice historique de ce dictionnaire en ce qui concerne non pas le Moyen-Âge, mais le XIXe siècle. En effet, dans la bibliographie de son article Mucre, le XIXe siècle n'est représenté que par Guy de Maupassant, d'après l'ouvrage d'Anthony Butler sur les parlers dialectaux et populaires dans l'œuvre de Guy de Maupassant. C'est un peu court. Il n'est pas impossible d'y ajouter un autre auteur du XIXe siècle qui s'est servi du mot qui nous intéresse. C'est Barbet d'Orvilly. Dans son roman « Une histoire sans nom » qui date de 1882, un des personnages utilise la locution « sentir le mucre » qui signifie « sentir le moisi ». Ce qui est intéressant est que cette attestation était citée dans le dictionnaire de Godefroy. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, Godefroy ajoute des indications sur l'usage actuel à la fin d'un certain nombre de ses articles. Dans son article Mucre, c'est donc l'auteur normand Barbet d'Orvilly qu'il évoque comme un témoin contemporain qui emploie le mot Mucre dans un de ses romans. On voit encore une fois combien Godefroy est une mine très riche qu'on ne sait pas très bien exploiter. À ce propos, il y a une autre observation à faire. Malgré son emploi fréquent de mot normand, Barbet d'Orvilly est rarement cité dans les études sur les régionalismes modernes. Cette négligence est un peu étonnante, d'autant plus que dès 1936, il a fait l'objet d'un examen lexicographique très poussé. C'est la thèse allemande intitulée « Die Normandie in Barbet d'Orvilly's Romanen, Briefen und Memorandum » que Hedwig Pintus a présenté à la Friedrich Schiller Université de Jena et qu'elle a publié l'année suivante. Sans doute, son titre était trop vague et par conséquent, cette thèse n'a attiré l'attention de personne. Même Wartburg l'ignore dans son dictionnaire étymologique. En fait, dans la deuxième partie de cette thèse, on trouve un glossaire détaillé de plus de 360 régionalismes. Il est fondé sur une lecture attentive des principales œuvres de Barbet d'Orvilly et muni de références aux instruments de travail disponibles à l'époque. Si donc l'on utilisait avec attention la thèse de Hedwig Pintus, on pourrait nourrir beaucoup d'articles du FEV sur les mots normands. Le mot Mucre est un de ces normandismes étudiés dans sa thèse. Ce cas nous rappelle que même pour les médiévistes, la lecture de ce travail n'est pas inutile parce que quand on étudie des mots régionaux, on est obligé de faire sans cesse le va-et-vient entre un état ancien de la langue et son état plus récent. Vous aurez ainsi compris, je l'espère, que le dictionnaire de Godefroy et celui de Toblerone néglige le caractère régional du français médiéval, mais que le FEV de Wartburg est un instrument indispensable pour tous ceux qui s'intéressent à la géographie des mots. Mais il faut toujours avoir à l'esprit que le FEV est complété par plusieurs ouvrages et des travaux dispersés de lexicographes. Dans mon dictionnaire, j'y ai renvoyé dans la mesure du possible. Et en me basant sur ces études, j'ai proposé des indications sur le caractère régional de certains mots. En qualifiant certains mots d'anglo-normand, de bourguignon, de champenois, de franco-italien, etc., j'ai essayé d'attirer l'attention des lecteurs sur leur diffusion restreinte. Ce sont des informations qui manquaient aux 10 volumes de Godefroy et aux 11 volumes de Toblet-Lomatch. Si cela pouvait conduire les utilisateurs de mon petit dictionnaire à se demander si ces hypothèses sont valables ou non, mon effort n'aurait pas été tout à fait inutile. Je vous remercie de votre attention. Thank you.